crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons, analysons, décryptons un ensemble de tapisseries du Moyen-Âge, La Dame à la Licorne, un cycle acquis par le musée de Cluny à Paris en 1882. Tissées vers 1500, elles furent mentionnées pour la première fois au château de Boussac en 1814, remarquées alors par Prosper Mérimée, puis par Georges Sand, avant de devenir la source d'inspiration de philosophes, d'historiens, de commentateurs divers, et en particulier Michel Pastoureau, aujourd'hui notre regardeur. Ce chef-d'œuvre vient d'être restauré et prend de nouveau place au musée de Cluny où vous pouvez aller l'admirer. Il est exposé au sein d'une toute nouvelle muséographie. Pour en parler, je reçois dans notre émission l'artiste Laurent Montaron. Bonjour Laurent. Mmh. Vous êtes un artiste qui travaillait avec des installations, des films, des photographies, des équipements acoustiques, mais en général, vous travaillez sur un réel voilé que vous aimez observer la façon dont le regardeur s'en empare et essaye d'en découvrir les significations. Vous anticipez d'un point de vue symbolique, d'un point de vue mystique, parfois d'un point de vue très suggestif, en tout cas, les différents aspects du réel. Et en cela, vous vous intéressez à des œuvres cryptées comme celles que nous allons observer aujourd'hui. Je reçois également, et je vous remercie beaucoup d'être là, Elisabeth Delahaye. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Vous êtes une grande médiéviste, conservateur général du patrimoine et depuis 2006, directeur du musée de Cluny. Vous avez été le commissaire de nombreuses expositions, dont Paris 1400 au musée du Louvre en 2004, je m'en souviens, et France 1500, entre Moyen-Âge et Renaissance, présenté aux Galeries Nationales du Grand Palais en 2010. Et surtout, vous avez écrit avec Michel Pastoureau ce livre exceptionnel qui s'appelle « Les secrets de la licorne », à ne pas confondre avec le fameux Hergé, le secret de la licorne. Voilà.
J'ignore si quelqu'un indigène s'est donné la peine de découvrir ce que représentent ou ce que signifient ces remarquables travaux ouvragés, longtemps abandonnés aux rats, ternis par les siècles, et que l'on répare maintenant à Aubusson avec succès. Sur 8 larges panneaux qui remplissent 2 vastes salles, on voit le portrait d'une femme.
On voit le portrait d'une femme.
La même partout, évidemment.
Jeune,
mince,
longue,
blonde et jolie, vêtue de 8 costumes différents.
Tous à la mode de la fin du XVe siècle.
Dans un de ces tableaux, la belle dame est assise en pleine face
et caresse de chaque main de grandes licornes blanches qui l'encadrent comme 2 supports d'armoirie.
Le croissant est semé à profusion sur les étendards. Sur le bois, des lances d'azur.
On a longtemps cru que ces tapisseries étaient turques. On a reconnu récemment qu'elles avaient été fabriquées à Aubusson. Car après tout, le croissant n'a rien d'essentiellement turc, et on le trouve sur l'exécution d'une foule de familles nobles en France. Cette dame, blonde et ténue, est très mystérieuse. Et tout d'abord, elle a présenté hier à ma petite fille l'aspect d'une fée. Ses costumes très variés sont d'un goût étrange et j'ignore s'ils ont été de mode ou s'ils sont le fait du caprice de l'artiste. Je remarque une aigrette élevée qui n'est qu'un bouquet de cheveux rassemblés dans un ruban, comme une queue à pinceau plantée droit dans le front. Si nous étions encore sous l'Empire, il faudrait proposer cette nouveauté aux dames de la cour qui ont cherché avec tant de passion dans ces derniers temps des innovations désespérées. Tout s'épuisant, la fantaisie du costume comme les autres fantaisies. Comment ne s'est-on pas avisé de la queue de cheveux menaçant le ciel ? Il faut venir à Boussac, le plus petit chef-lieu d'arrondissement qui soit en France, pour découvrir ce moyen de plaire. Georges Sand.
C'est aujourd'hui dans l'une des salles hautes du musée de Cluny à Paris qu'est exposé ce cycle magnifique de la Dame à la Licorne. 6 tapisseries de tailles différentes. La plus grande fait presque 4 mètres sur 5 et la plus petite 3 mètres sur 4. Et qui présente sur un fond rouge constellé de fleurs et d'animaux 6 scènes qui se déroulent chacune sur une sorte d'île ovale subtilement arborée. Sur chacune paraît une dame au port altier, richement vêtue. Parfois, une suivante l'accompagne, toujours la même, et participe à une action comme tendre une coupe, porter un coffret ou un plat couvert de fleurs. Toujours, les scènes mettent en évidence un lion ou une licorne représentés dans différentes situations ou postures. Et le plus souvent, associés à un écu, une cape ou à la hampe d'une bannière armoriée sur laquelle sont représentées les armoiries de gueules à la bande d'azur chargée de 3 croissants d'argent. Une grande sérénité se dégage de cet ensemble, due peut-être au fait que les personnages ne se parlent pas, ne se regardent pas, et paraissent être les acteurs d'un rituel étrange qui se déroulerait dans le silence, en dépit d'un petit orgue portatif animé par la dame et sa suivante. Cette impression mystérieuse, le charme magique qui s'en dégage, ainsi que la fascination pour l'animal merveilleux qu'est la licorne, a sans doute concouru à la célébrité de l'ensemble et aux multiples interprétations qu'il a fait naître. De ce cycle si cohérent, une tapisserie se détache par sa singularité qui rompt avec les autres. On l'appelle « mon seul désir » en raison de l'inscription qui figure au sommet du pavillon. C'est littéralement un monde intérieur qu'entr'ouvrent le lion et la licorne, écartant comme les pans d'une robe le tissu constellé de flammes d'or qui fermait la tente. Les cheveux dénoués, une robe rouge bouillonnant sur son ventre, la dame dépose un bijou dans les crins que lui présente son accompagnatrice. C'est ce cycle, et particulièrement cette grande œuvre, qui paraît peut-être le conclure, que nous allons examiner à notre tour. Laurent Montaron, vous vous intéressez au sens des images. Je suis curieux de savoir, non pas quel sens vous avez trouvé, mais quelle obscurité vous a attiré dans ce voyage que vous avez fait au musée de Cluny.
Alors, pour moi, l'intérêt que je peux porter à cette œuvre, c'est aussi que ça rejoint quelques-unes de mes préoccupations, on va dire. Puisque l'idée, enfin ce que je peux voir derrière ces tapisseries, avec les cinq sens, puis cette sixième tapisserie, c'est la question de l'accès au réel, finalement, au travers des sens. Et cette représentation qui est pour moi un peu paradoxale, puisque la licorne apparaît aussi comme un animal imaginaire auprès de cette
dame. Vous parlez des cinq sens, je vous arrête, Laurent Montaron, parce qu'on n'en a pas encore parlé. En effet, la tradition nouvelle, la relecture de ces tapisseries, vous allez nous en parler, j'imagine, Elisabeth Delahaye, c'est qu'elle représente les cinq sens. C'est pour ça que vous évoquez cette question.
Oui.
La sixième
oui.
étant un peut-être sixième sens, nous en reparlerons.
Voilà. Donc,
et donc la licorne, disiez-vous.
Oui, donc ce qui m'intéressait, c'était cette sixième tapisserie qui évoque la question du désir, en fait, avec ce bijou qui est déposé dans cette cassette, en fait, qui est pour moi comme une sorte de vanité, finalement, où on abandonne les attributs de l'apparence pour révéler une partie intérieure. Et ceci par l'accès de ses sens. Donc pour moi, ça posait une question de, comment dire, d'accession au monde au travers de... des sens et de cette... comment dire, ça dessine une sorte de...
C'est un chemin, c'est comme un... Vous vous intéressez au Neboroméen, c'est presque comme ça, un filet qu'il faudrait suivre pour parvenir à
Oui, j'imaginais aussi quand on parlait de cycle par rapport à cette tapisserie, qu'elle pouvait être lue dans deux sens opposés. C'est-à-dire que cette idée de déposer le bijou dans la cassette pouvait apparaître aussi premièrement comme étant retirée de la cassette, puis portée par cette dame. Ou inversement, elle vient le déposer. Ainsi, elle apparaîtrait à la fin du cycle.
Elisabeth Delahaye, ce cycle dont parle Laurent Montaron, il est maintenant convenu de considérer que c'est effectivement les cinq sens plus un qui seraient représentés par ces six tapisseries.
C'est une interprétation qui a été proposée au début du XXe siècle par un historien d'art anglais qui s'appelle Kendricks et qui, il faut le dire, a été en général retenue par les historiens et les historiens d'art et qui est celle que nous présentons au musée de Cluny puisque nous mettons, comme vous le savez, comme dans les musées, des cartels devant les œuvres et sur le cartel, nous indiquons le toucher, la vue, l'odorat, etc. Ensuite, moi, ce que j'aime bien dire, c'est parce que je crois que c'est une réalité profonde de la pensée médiévale, c'est que une interprétation n'en exclut pas forcément pour autant d'autres. Et que si chacune de ces tapisseries est effectivement très probablement une allégorie, et pour cinq d'entre elles, une allégorie de ce que on appelait au Moyen-Âge, reprenant d'ailleurs les textes antiques, les sens externes, ça ne veut pas dire que voilà, c'est là l'alpha et l'oméga. J'aime bien ce que disait Laurent Montaron tout à l'heure en disant voilà, où est le réel, où est l'imaginaire? Et justement, nous sommes là au cœur de la question. La licorne, pour beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge et encore au XVIe siècle, est un animal réel. Nous avons des récits de voyage qui relatent des rencontres avec des êtres humains tout à fait extraordinaires, des animaux réels, et parmi ces animaux réels, une licorne. Dans ces représentations de la dame, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire? Une allégorie, c'est à la fois du réel et de l'imaginaire. Donc, j'aime bien cette façon de poser la question, ce qui est une façon d'ailleurs aussi d'avoir une question qui reste ouverte et qui ne se clôt pas sur elle-même, de même que, comme vous le disiez très bien, nous avons des sens externes, et puis si nous en avons d'autres, ce sont peut-être, et là, ça, l'artiste rejoint le philosophe, Michel Serres dit « il faut bien un sixième sens par lequel, alors je cite de mémoire, hein, Michel Serres me pardonnera, l'être se retourne sur lui-même, et donc voilà, je crois ici, on ne percera jamais complètement les mystères de cet ensemble, mais on est, je crois, au cœur des questions que ça peut nous poser, des résonances avec notre vie d'aujourd'hui.
Donc c'est une allégorie avec une superposition de sens, probablement, parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans chacun des sens qui sont là. C'est effectivement un récit qui nous installe dans un monde très imaginaire. C'est presque un film, Laurent Montaron.
Oui, après, il y a une espèce de lecture qui va se faire entre chaque image, finalement. Après, quand je parlais de cette histoire de cycle, donc ça nous invite aussi à donner un sens propre qui nous est individuel, puisqu'on peut lire cet ensemble de tapisseries dans un sens ou dans l'autre, et faire des liens, puisqu'il y a des répétitions qui se font dans les images, donc ça apparaît comme presque les vignettes d'un film, puisque la licorne, par exemple, qui apparaît sur chacune des tapisseries, est mise en mouvement quand on regarde l'ensemble.
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, la licorne apparaît sur chacune des tapisseries, en effet, elle change de position, et chacune des positions éclaire la signification, d'ailleurs, de l'ensemble, et parfois elle est un animal héraldique, c'est-à-dire qui porte les emblèmes, le blason, en fait, d'une famille. Parfois, c'est un animal qui a une fonction plus symbolique ou narrative, c'est-à-dire qu'elle va prendre le rôle symbolique du Christ ou de la Vierge, vous le préciserez peut-être, Elisabeth Delahaye, et parfois le rôle, comment dirais-je, le rôle imaginaire, comme ça, de allégorique de la poursuite de l'aimé. On va revenir là-dessus. Peut-être pourriez-vous dire un mot, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est à la fois allégorique et emblématique? Comment est-ce qu'on pourrait décrire sa fonction?
Alors, sa fonction est sûrement plurielle, et c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, un animal profondément...
ambivalent.
Ambivalent, absolument. Lorsque l'on voit apparaître la licorne dans les textes antiques, c'est un animal auquel est attachée une histoire. Elle est un animal particulièrement farouche qui s'échappe très rapidement et elle ne peut être capturée que par une sorte de subterfuge, et notamment elle peut être attirée par une jeune fille vierge. Alors au Moyen-Âge, on va à la fois reprendre cette histoire et aussi la christianiser, et effectivement faire de cet emblème de pureté également un emblème du Christ, et donc un emblème des souffrances du Christ, mais aussi de son rôle rédempteur. Ce qui n'a n'empêche pas, ambivalence que nous retrouvons, que évidemment son aspect physique, avec cet immense et très élégant appendice qu'elle porte sur le front, peut être un tout autre type de symbolisme. Et je fais bien confiance à la fois aux intellectuels et aux artistes du Moyen-Âge pour avoir complètement, non seulement perçu, mais employé, si je peux utiliser ce mot, le double sens, l'ambivalence de la corne.
La corne étant, bon, elle est devenue l'emblème de la pureté de cette licorne, bien entendu, elle est phallique, bien entendu, également, et elle est, comme vous le disiez tout à l'heure, absolument assumée comme une vérité. On la voit dans les trésors de beaucoup de cathédrales, de châteaux, de grandes familles, etc. Et à un moment, on n'est pas encore observée comme une corne de narval, mais encore comme la corne de la licorne, donc être merveilleux, mais réel, jusqu'au début du monde moderne, peut-on dire, jusqu'à la naissance de la modernité, jusqu'au XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début.
Disons qu'effectivement, au cours du XVIe siècle, on commence à s'interroger, parce que effectivement, lorsqu'on s'intéresse aux histoires naturelles, on commence à mettre en doute. Michel Pastoureau raconte très bien ça. Comme toutes les histoires, mais notamment celle-là. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le fait que c'est un, enfin, si vous me permettez, sur le fait que c'est une histoire illustrée, un peu comme au cinéma ou un peu comme dans une bande dessinée. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est une histoire sans parole et que finalement, la seule des tapisseries qui porte un texte, c'est la plus mystérieuse.
Le roman Taron.
Donc la tapisserie Mon seul désir.
Alors peut-être il faudrait la décrire. Vous pouvez peut-être la décrire.
Oui. Alors on y voit la dame qui dépose son collier dans une cassette portée par une servante.
Vous êtes sûr qu'elle la dépose ? Elle la prend peut-être ?
C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir si elle la prenait ou elle le déposait, puisqu'on a une image arrêtée dans le mouvement.
Oui. Ça doit vous réjouir, cette question d'interprétation.
Bien sûr, puisque l'interprétation reste ouverte et les lectures, différentes lectures sont possibles. Après, le texte qui vient sur l'image, justement, j'ai évoqué tout à l'heure la question du désir aussi, qui a été un des grands concepts de la philosophie récente, on peut dire, où avec en déposant ce bijou dans la cassette, j'ai parlé de vanité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'abandon des apparences pour ouvrir sur une question qui serait plus immatérielle, finalement, et avec cette question du désir.
Ce que vous aimez, me semble-t-il, c'est qu'il y a une intrigue qui se noue là et qu'elle révèle la pluralité des significations. Est-ce que ce serait quelque chose comme cela ?
Oui, et aussi parce qu'il y a dans chacune des images une sorte de profondeur. C'est-à-dire qu'on a des éléments dont la lecture semble assez simple au premier abord, puis nombre de détails qui tiennent aux animaux représentés ou à d'autres représentations dans les motifs, qui nous permettent de remettre en cause la première lecture qu'on...
Alors, pour bien comprendre ce que vous dites, ces tapisseries sont des tapisseries à fond rouge, sur lesquelles il y a c'est des tapisseries à mille fleurs, comme on dit parfois. Donc, c'est un genre de tapisserie qui se développe entre 1480 et 1520, grosso modo. Hein, donc, je parle sous votre contrôle, Elisabeth Delahaye, surtout, n'hésitez pas à me corriger. Et elles sont parsemées de fleurs qui sont extrêmement précises dans leur représentation. On arrive à les identifier presque toutes. Vous l'avez fait dans votre catalogue, La Dame à la Licorne, très beau catalogue. Et il y a des animaux, et des animaux très souvent exotiques, qui viennent probablement de ménageries. Je ne savais même pas que ces animaux étaient connus au XVe siècle, au XVIe siècle en France. Au milieu de ces tapisseries, il y a ces personnages, quelques armes, des personnages qui apparaissent, et finalement très peu de monde. Est-ce que ce monde à mille fleurs, à votre avis, a la même fonction que les fonds dorés dans le monde byzantin, c'est-à-dire une présentation d'un monde irréel, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qui est assez frappant, c'est que nous sommes à une époque où les artistes savent représenter le volume d'un corps, la profondeur d'un espace, l'étagement du paysage depuis l'espace terrestre vers un horizon. Et dans ces tapisseries à fond de mille fleurs, manifestement, ça n'est pas parce qu'on ne sait pas le faire, mais parce que ça n'est pas le plus important. On choisit au contraire d'avoir un fond très abstrait, mais en même temps réel, puisqu'on y sème ces fameuses fleurs qui sont celles des champs et des prés de l'époque, comme d'ailleurs de nos jours. Et Moi, je le verrais plutôt comme effectivement une sorte de concentration sur ce qui est l'essentiel. En l'occurrence, l'essentiel, ce n'est pas de représenter le volume ou le paysage, c'est de se concentrer sur ces fameuses allégories avec très très peu de personnages et d'évoquer un monde. Mais on ne l'évoque pas par un paysage, on l'évoque par ces fleurs. Et je pense que le monde que l'on évoque, c'est ce monde de l'amour courtois, mais aussi un monde très, très apaisé, très harmonieux.
Vous parlez de l'amour courtois, il y a un personnage qui en parle lui aussi, très important. Nous allons l'écouter, c'est Richard de Fournival. Qui est Richard de Fournival? Vous pouvez nous en dire un mot peut-être?
Alors Richard de Fournival, c'est l'un de ces auteurs du Moyen-Âge, auteur de ce qu'on appelle les bestiaires, qui ne sont pas des descriptions naturalistes au premier chef, mais qui sont ce que l'on appelle des moralités, c'est-à-dire qui décrivent les animaux en fonction de ce qu'on peut leur attribuer
c'est
comme...
propriété, leur vertu, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, en quelque sorte. Et là aussi, vous avez des animaux plutôt positifs, d'autres plutôt négatifs, mais vous avez aussi un certain nombre d'entre eux qui sont ambivalents, parmi lesquels la licorne.
La nature de la licorne est telle qu'il n'existe aucune bête aussi périlleuse à capturer. Elle possède sur les naseaux une corne à laquelle aucune armure ne peut résister, de sorte que personne n'ose ni l'attaquer, ni l'approcher, si ce n'est une jeune fille vierge. Quand par son flair elle en découvre une, elle s'agenouille devant elle et la salue humblement, avec douceur, comme si elle se mettait à son service. Alors arrivent les chasseurs qui la tuent. C'est de cette même manière qu'Amour s'est joué de moi. Amour a placé sur mon chemin une jeune fille que j'ai aimée d'amour avec autant d'ardeur que j'ai entendu dire que l'on pouvait aimer. Devant sa douceur, je me suis endormi, mais elle m'a fait mourir d'une mort propre à l'amour. Le désespoir sans espérance de pitié. J'ai été pris au piège de son odeur.
Dans cette description du parfum de la licorne qui prend au piège le désirant, en fait, Laurent Montaron, vous avez vraiment les arguments d'un récit qui commence. Ce récit, c'est une poursuite amoureuse. Est-ce que c'est un sujet qui peut être traité par un artiste contemporain?
Je dirais qu'il n'y a pas de sujet qui ne peut pas être traité. Après, disons que moi, je suis attaché en fait à la question du style, par exemple. Et je pense qu'une œuvre se développe plutôt dans la manière dont elle est faite plutôt que dans le choix de la thématique.
La manière dont elle est faite, donc c'est ici cette superposition de signification. On va parler à nouveau des cinq sens et du sixième sens peut-être, mais aussi de la poursuite amoureuse. Elisabeth Delahaye, quel est le lien entre ce cycle de tapisserie et l'amour courtois? Et qu'est-ce qu'on appelle l'amour courtois? Et en quoi est-ce que ça vient enrichir la lecture de cette poursuite amoureuse, mais ce n'est pas exactement ça, ou bien est-ce que c'est cela?
Alors je dirais que oui, c'est cela et c'est autre chose, ce qui est peut-être une réponse un peu facile.
C'est plusieurs choses à la fois.
Et voilà, c'est plusieurs choses à la fois. Alors, Laurent Montaron disait tout à l'heure, on peut lire cette histoire muette, cette histoire sans parole, dans un sens comme dans l'autre. Nous avons choisi, dans la nouvelle muséographie au musée de Cluny, de présenter les tapisseries non pas dans un ordre aléatoire dû à leur dimension ou à l'équilibre d'une composition, mais en s'appuyant sur les textes médiévaux qui distinguent une hiérarchie entre les sens, qui va... Alors, effectivement, dans un sens ou dans l'autre, du plus matériel au spirituel ou du spirituel au matériel. Si l'on va du matériel au spirituel, on commence avec le toucher et puis on termine avec la vue qui permet effectivement, par la contemplation, de s'élever vers un autre monde.
Dans votre présentation, la première tapisserie qui est montrée, c'est le toucher, si on suit
absolument
l'ordre proposé,
oui,
et qui est donc le plus superficiel de tous les sens et qui est d'ailleurs une des tapisseries dont les connotations érotiques sont peut-être les plus directes. Les cheveux sont défaits.
Alors oui, je ne dirais pas forcément que c'est le plus superficiel. Je dirais peut-être que c'est le plus le plus concret.
Le plus incarné.
Absolument. Ouais. Et incarné dans tous les sens du terme, y compris, effectivement, je me souviens d'avoir rencontré un interlocuteur qui me disait voir quelque chose de terriblement sexuel, pour en parler comme les enfants dans les cours de récréation.
La main caressant cette corne peut laisser penser...
Oui, c'est quand même très, très suggestif. Ouais. Et ça peut être perçu, effectivement, avec une très, très forte puissance suggestive dans cet ordre-là. Et donc, on parlait tout à l'heure du désir, et effectivement, l'interprétation qui a été proposée par un historien qui s'appelle Jean-Patrice Boudet, est de voir dans la sixième tapisserie une tapisserie qui se placerait au sommet de cette progression et qui permettrait effectivement de voir dans la sixième tapisserie, placée sous cette inscription qui met le mot « désir » en exergue, l'illustration d'un sixième sens qui est le cœur qui justement mène les autres sens, permet de les dominer ou de les mener dans un sens positif. Et nous sommes à une époque aux environs de 1500 où on cherche à concilier le monde concret et le monde intellectuel.
On ne sait jamais si quand vous parlez du cœur, vous parlez du cœur comme un élément spirituel ou comme un élément, ou comme un sentiment qui va jusqu'à la possession charnelle.
Eh bien justement, je crois que toute la richesse de la signification médiévale, c'est d'englober la totalité du mot. Et la question que j'avais envie de poser à Laurent Montaron, c'est vous dites que le terme de désir est un des sujets de votre travail. Et moi, j'aimerais savoir comment vous transcrivez le désir dans votre travail d'artiste contemporain. En un sens, on peut dire que l'auteur des Petits Patrons, des modèles de la Dame à la Licorne, a illustré le désir avec cette tapisserie. Comment vous illustrez-vous, représentez-vous ou symbolisez-vous le désir dans votre, dans votre travail ?
Après, je n'illustre pas vraiment la question du désir, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, à savoir comment on a redéfini l'idée du désir, qui porte pas forcément sur un objet, mais qui va s'intéresser à un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'on va désirer un ensemble, quelque chose de finalement abstrait, et qui abandonne l'objet du désir. Et c'est un peu ce que je retrouve dans cette représentation. Donc c'est pour ça que j'évoquais un peu le fait que j'étais intéressé par ce rapport entre le texte et l'image qui vient soulever des questions de définition par rapport à cette idée de désir. Alors après, on a parlé du désir amoureux, ou du désir sexuel, du désir de l'objet. Donc pour moi, il y a aussi, dans ce labyrinthe de signification par rapport aux signes qui sont présents dans l'image...
Il y a une mise en mouvement, Laurent Montaron, de l'esprit, qui, en dépit de l'arrêt de l'image, organise une circulation, comme ça, une circulation de sens de l'un à l'autre. C'est quelque chose que vous avez fait, me semble-t-il, dans une œuvre que j'avais trouvée assez saisissante, qui était le lent portrait de Sainte Bernadette, où vous avez fixé avec une caméra l'image... maintenant en cire, pas l'image en cire, Sainte Bernadette, donc dont le visage est recouvert de cire, puisqu'elle est à Nevers, n'est-ce pas ?
Oui.
Elle est toujours à Nevers. Et vous l'avez filmé, c'est en 8 mm ou quelque chose comme ça ?
En 16 mm.
En 16 mm. Et cette immobilité devient un mouvement et un nombre de significations étranges qui se produit.
Alors, je l'ai filmé donc en 16 mm avec une caméra accélérée. Donc, ce qui m'a permis de ralentir, en fait, l'image lorsqu'on la voit. Et le seul événement qui se passe dans cette image, c'est le déplacement de la mise au point, du focus, entre les lèvres et les yeux. Donc, il y a une sorte de boucle comme ça qui vient animer un visage qui est là depuis une centaine d'années. Hein. Et ce qui m'intéressait dans cette œuvre, c'est le paradoxe qu'il y avait autour de Sainte Bernadette, à savoir que l'incorruptibilité du corps était une preuve de la sainteté, en fait, qui permettait l'accession à la béatification.
Non, c'est intéressant parce que là, on est dans un sujet très, très différent, mais je vous demande pardon d'avoir fait cet écart, si je puis dire, parce que j'ai l'impression que lorsque l'on observe de façon fixe cette image qu'est la sixième tapisserie, et que on passe d'un sens à l'autre. Tout d'un coup, l'ouverture des pans de la tente donne la sensation d'être l'ouverture d'un monde intérieur. Ce trésor que l'on rend, c'est comme une vertu que l'on dépose. Il y a tout un ensemble de significations qui se superposent et tout d'un coup, le mouvement se fait à nouveau. Est-ce que, par exemple, j'ai lu, peut-être est-ce vous d'ailleurs qui l'avez écrit, qu'il y avait une relation symbolique et sexuelle aussi d'ailleurs entre cette lance et cet écu qui risquait d'être fendu pendant le tournoi, cette conquête comme ça de la dame, en fait. Alors, qui est une joute.
Effectivement, dans la polysémie des images, il faut aussi penser aux arrière-plans littéraires. On a peut-être un petit peu trop tendance à penser que la littérature et la pensée médiévale sont essentiellement religieuses, morales, à la rigueur philosophique et juridique. Il y a aussi toute une littérature, alors la littérature courtoise à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, mais il y a aussi toute une littérature profane, et notamment une poésie que nous appellerions sans doute grivoise. Et parmi ces poèmes, vous trouvez des poèmes qui brodent sur les images de la lance et de l'écu, dont je vous laisse tout à fait imaginer effectivement à quoi ils font allusion.
J'en parle parce que ces deux figures qui reviennent dans chacune,
absolument,
avec l'opposition licorne plutôt féminine et le lion plutôt masculin, et aussi la présence des animaux qui s'observent et qui ont aussi probablement des relations, comment dirais-je, symboliques.
Absolument. Il y a notamment entre le héron et le faucon, là aussi vous le trouvez dans la littérature, mais vous le trouvez également dans certaines images, et notamment dans les tapisseries, le combat du héron et du faucon est une métaphore du combat courtois. Vous disiez la licorne est plutôt féminine.
C'est
ambigu parce que le français est une des rares langues où la licorne est féminine. Le latin unicornus est masculin. Beaucoup d'autres langues ont le mot au masculin, et lorsque l'on remarque que ces tapisseries sont des tapisseries sans hommes, on peut imaginer, ou en tout cas on peut supposer, que l'homme est bien présent, mais sous une forme emblématique.
Pour basculer, pour contredire ce que vous venez de proposer, qui était la vision charnelle comme ça de la lecture de ce cycle, la licorne est aussi le Christ.
Alors, la licorne a été christianisée. Vous savez que l'Église chrétienne, dès les premiers temps et tout au long du Moyen-Âge, a cherché à christianiser les rites, les fêtes, le calendrier, les histoires. Et parmi les histoires qu'elle a christianisées, celle de la licorne est effectivement tout à fait significative. Et donc, effectivement, c'est une des interprétations. Voilà, c'en est une, et il ne faudrait pas penser que parce que l'Église avait un rôle très important au Moyen-Âge, cette interprétation-là était la seule qui était utilisée, courante à l'époque.
Alors, sur cette question de l'incarnation, je pense il y a la sensation, à cause du silence que je ressens, mais peut-être que vous ne le ressentez pas, qui émane de l'ensemble de ces tapisseries, il y a le sentiment de quelque chose d'extraordinairement précieux qui se déroule, de quelque chose de presque fragile qui a lieu. Et quand je pense à la fragilité, je pense souvent à ce film dont je ne connais pas le titre que vous avez fait, où vous tenez dans la main, non pas un cœur d'amour épris, mais un cœur de poisson qui bat encore dans votre main et qui est à la fois une protection de la vie, une vulnérabilité, une cruauté, il y a tout cela.
Alors en fait, c'est un cœur de carpe, donc qui se trouve au creux d'une main, que j'ai filmé donc en 16 mm, où on voit le cœur battre après qu'il ait été extrait du corps de l'animal, et qui est une petite boucle de quelques secondes, où on voit ce cœur battre indéfiniment. Donc dans une œuvre comme celle-ci, ce que j'aime mettre en place, en tout cas, c'est des couches d'interprétation, mais aussi des couches de temporalité. Donc après, comme spectateur, on est confronté à une image où on voit différentes temporalités. Il y a celle du film, de l'usure du film, aussi de ce cœur qui bat à l'infini, mais qui en même temps est une représentation. Donc on a une espèce de sandwich, en fait, dans la lecture de l'œuvre. Un peu, tout à l'heure, on a évoqué cette question de cette frontière entre qu'est-ce qui est de la part de l'imaginaire et qu'est-ce qui est la part du réel, quand on a parlé du toucher et du sens. Voilà, donc c'est peut-être là où on peut faire un lien dans l'interprétation des images avec mon travail, quelque part.
La question du temps existe peut-être aussi parce qu'il y a cette progression, qui n'est pas une progression, je crois, du récit, puisque en passant d'un sens à l'autre, on ne peut pas dire qu'on se rapproche de la dame. Il ne me semble pas qu'il y ait une progression de la conquête. Mais il y a une progression vers l'invisible, l'immatériel, vers du plus incarné, vers le plus immatériel. Il y avait effectivement une qualification, une qualité supérieure de tel ou tel sens sur les autres du point de vue spirituel au Moyen-Âge.
Alors oui, ça c'est tout à fait tangible. Cela s'appuie d'ailleurs sur des textes antiques et sur la traduction, la transmission qui en a été faite par les pères de l'Église, hein, qui évoquent ces sens et qui d'ailleurs évoquent des sens externes et des sens internes, hein, notamment au travers de textes comme ceux de Saint-Augustin. Cette dialectique, j'allais dire, du matériel et de l'immatériel est au cœur de la pensée médiévale et est au cœur aussi de ce qu'on pourrait appeler, si on voulait aller peut-être un tout petit peu trop loin, l'esthétique médiévale. Le premier et l'un des rares auteurs du Moyen-Âge qui se soit exprimé sur ce qu'on pourrait appeler une théorie de l'art, c'est ce fameux abbé Suger qui est à la tête de l'abbaye de Saint-Denis dans les années 1122-1151, pour être précise, et qui explique justement que la contemplation des œuvres d'art, de la beauté des vitraux, de la lumière, de la couleur des pierres précieuses qu'il fait monter en vase pour recueillir des espèces sacrées, permet aux dévots qui les contemplent de passer du monde matériel au monde immatériel. Donc on est bien dans cette perspective-là qui est plus ou moins précisément exprimée, mais qui est, je crois, au cœur de la pensée médiévale.
Jusqu'à faire des vitraux le symbole de la virginité de la Vierge, puisqu'ils sont transpercés par la lumière sans être brisés. On est dans des métaphores assez proches de ce que l'on voit pour l'instant.
La licorne, qui est un être imaginaire composite, peu importe quelles sont ses origines du côté de la faune véritable, rhinocéros, antilope, etc. Dans les images et dans les textes, c'est un quadrupède qui a le corps soit d'un cervidé, soit d'un cheval, des pattes de taureau, ou d'âne, ou de cheval, ou de lion, une queue qui est en général développée, une tête de chèvre ou de cheval, et surtout, sur le front, une très longue corne torsadée qui passe pour avoir des vertus merveilleuses, notamment des vertus purificatrices, pour éloigner le poison, d'où dans les trésors d'abbaye, dans les trésors princiers et royaux, des cornes de licorne que l'on conserve précieusement, qui sont en fait, en général, des cornes de narval, et une très belle légende, qui met en scène cet animal et une jeune fille, légende héritée de l'Antiquité, mais qui veut que la licorne soit très difficile à capturer, et on cherche à s'emparer de sa corne, naturellement. Donc les chasseurs utilisent une ruse. Comme cette licorne est attirée par tout ce qui est pur, elle-même étant très pure, seule une femme vierge, une jeune fille vierge, a le pouvoir de la séduire. Donc les chasseurs installent une vierge quelque part dans la forêt. Attirée par l'odeur de virginité, la licorne s'approche, pose sa tête sur le sein de la vierge et les chasseurs, par derrière, traîtreusement, s'emparent de l'animal.
C'était la voix amicale et familière de Michel Pastoureau qui s'entretenait avec Jacques Coget. Laurent Montaron, cette corne de licorne ou de l'unicorne, qu'est-ce qu'évoque-t-elle pour vous ?
Après moi, elle m'a fait penser, quand on cherche un peu une signification de cette licorne, à la lumière divine, en fait, qu'on peut retrouver par exemple sur le Moïse de Michel-Ange,
oui.
Qui porte des cornes.
Qui viendrait d'une mauvaise interprétation, je crois me souvenir, où on avait changé lumière avec corne, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances, mais il n'empêche que c'est un rayon.
Oui.
Alors, on en fait plutôt le symbole, semble-t-il, Elisabeth Delahaye, de l'unité entre le Père et le Fils.
Dans un certain nombre de textes théologiques. Alors, Aussi, hein, la pensée médiévale est à la fois parfois terriblement pragmatique et parfois terriblement intellectuelle, et donc on devient presque obscur pour nous aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien revenir à ce que vous disiez tout à l'heure de la licorne pure et purifiante, parce qu'effectivement, si on la voit dans des représentations planter sa corne dans une rivière...
Pour purifier l'eau.
Voilà, c'est bien parce qu'elle est elle-même pure, et du coup, son attribut est lui-même objet de purification.
On mettait ces cornes de licorne dont vous parliez, Laurent Montaron, à l'instant, dans les maisons pour se protéger des poisons.
Voilà,
c'était
exactement.
Presque symboliquement, ouais. Voilà, c'est un bel objet.
Oui.
Qu'en pense un sculpteur?
Oui, donc la corne de narval, en fait, la dent de narval. Hein.
Très collectionné autrefois, avec une torsade qui reprend la force de Coriolis quasiment, et qui parfois est sculptée, par exemple au musée Correr à Venise, il y a toute la généalogie de la Vierge qui est sculptée sur une corne de licorne, sculptée au XIIIe siècle, me semble-t-il, mais vous me corrigerez si je me trompe, Elisabeth Delahaye. Voilà.
Non, mais il est vrai que cette beauté naturelle de la corne de narval explique sans doute que on l'ayant alors connu, aperçu, je ne sais comment, ait été si suggestive pour les hommes de l'Antiquité qui ont inventé l'histoire et qui ont inventé la figure de la licorne, et jusqu'au symboliste dont Gustave Moreau à ce point inspiré les artistes.
Alors Gustave Moreau, c'est la réapparition de la licorne à la fin du XIXe siècle dans le monde symboliste qui avait disparu. Je pense du XVIe siècle au XIXe siècle à peu près, licorne.
Elle ne disparaît pas complètement, mais elle est moins élément central. Gustave Moreau lui redonne une place, j'allais dire, un peu équivalente à celle qu'elle avait pour l'artiste qui a créé les modèles de la Dame à la licorne. Mais là encore, nous parlions de réel et d'imaginaire. Au XVIIe et XVIIIe siècle, même si des doutes sont apparus sur la réalité de l'existence de l'animal que l'on appelle licorne, on continue d'avoir des représentations, par exemple de l'Arche de Noé ou du Paradis terrestre, où au milieu des nombreux animaux représentés figure une licorne. Donc, ce qui montre bien que la réalité de l'existence reste quelque chose qui peuple alors l'intellect ou l'imaginaire faisant partie de notre intellect humain, me semble-t-il.
Laurent Montaron, est-ce que le merveilleux, puisque là nous sommes dans un monde du merveilleux, le bestiaire qui avait la volonté d'être de parler d'animaux réels, me semble-t-il, hein, néanmoins, là, fait une place particulière à un animal merveilleux. Est-ce que le merveilleux a encore une place chez un artiste aujourd'hui? Est-ce que c'est un sujet? Ou est-ce que seul le réel est un sujet?
Non, je crois qu'aussi la question de l'imaginaire fait partie du réel, de notre réalité en tout cas. Après, moi, c'est une question qui m'a intéressé toujours dans cette idée de poursuite de connaissances, on va dire. On a toujours essayé de repousser au plus loin la part d'imaginaire. Après, dans l'étude ou l'histoire de la connaissance, on a toujours eu cette part qu'on repoussait petit à petit, jusqu'à aujourd'hui avoir cette idée des exoplanètes, par exemple,
oui.
Qui serait à l'image de notre monde et qui serait aujourd'hui représentatif de cette impossibilité tangible.
Les exoplanètes, c'est une sorte de merveilleux puisqu'on n'arrive pas, on est obligé de l'imaginer. Donc ça ouvre une place considérable à l'imaginaire. Et je suppose que la licorne qui venait d'Inde, on savait qu'on ne la rencontrerait pas. Je crois que c'était à l'époque, on considérait que c'était pas un animal que l'on rencontrerait dans le monde européen.
Voilà, elle était décrite par les voyageurs. Les voyageurs qui l'ont rencontrée, l'ont rencontrée au cours de voyages lointains. On a notamment...
Sur des exoplanètes, en quelque sorte.
Voilà, c'est ce qui était probablement l'équivalent des exoplanètes. Le royaume du prêtre Jean, ou les environs du mont Sinaï, donc effectivement des mondes très lointains, difficiles d'accès, et tout à fait merveilleux.
Ouais. Pourquoi cette dame à la licorne dont nous parlons aujourd'hui ne s'appelle pas la dame au lion et à la licorne, puisque le lion y est aussi présent que la licorne?
Je crois que vous avez donné la réponse tout à l'heure, cher ami, puisque vous disiez le lion porte des armoiries, mais la licorne ne se contente pas de porter des armoiries, elle est aussi en quelque sorte actrice de l'allégorie. Nous avons assez longuement parlé du toucher et de ce caractère très suggestif du geste de la dame sur la corne de notre animal, dans la vue, nous retrouvons ce récit, en quelque sorte, de la conquête de la licorne par la dame, puisque nous, on voit que la dame tient un miroir, que la licorne s'en rapproche, se mire dans l'objet que lui tend la dame, et se pose délicatement ses pattes sur les genoux de cette dame, et effectivement, ce qui manque dans le récit, c'est l'épisode suivant, qui serait la capture par le chasseur. Et ce qui est très significatif, il me semble, de ce qu'a voulu alors le commanditaire, l'artiste qui a dessiné les modèles, c'est en rester à ce monde, j'allais dire, idéalisé, ce monde merveilleux, où tout est beau, tout est harmonieux, tout est supérieur, et où les haines, les violences humaines n'apparaissent pas.
Alors la capture dont vous parlez tout à l'heure, elle est peut-être mieux décrite dans une série qui est attribuée, je crois, au même artiste, je ne parle pas du lycier là, mais de celui qui a fait le carton. Dit-on le carton, parce qu'il y a trois étapes.
Voilà, exactement.
Pouvez-vous le dire ?
Alors, dans la création d'une tapisserie ou d'un ensemble de tapisseries correspondant à une commande, à une volonté d'illustration et de création artistique de quelque importance, on distingue effectivement trois étapes qui sont assez facilement reconnaissables. Il y a un artiste qui donne le modèle, mais un modèle qui est en général donné sous forme d'une maquette de petite dimension. Puis un deuxième artiste que l'on appelle le cartonnier, qui agrandit ce modèle aux dimensions de la pièce à réaliser. Et donc effectivement, on peut parler à ce moment-là de carton. Et c'est un petit peu le même type de principe que pour les vitraux d'ailleurs. On a le même processus en deux temps. Puis un troisième qui est la réalisation même. Pour un vitrail, c'est le maître verrier. Pour une tapisserie, c'est le lissier.
Highlands.
magnifique Arvo Pärt, qui a été bouleversé par le texte du poète Robert Burns, qui a écrit ceci en 1789 et qui l'a découvert alors qu'il était en train d'apprendre justement l'anglais. C'est un des artistes qui travaillent, je trouve, de la façon la plus bouleversante sur la polyphonie, les musiques anciennes, en créant une distance qui fait que son interprétation est toujours extrêmement contemporaine. On ne peut pas se tromper, mais néanmoins, elle est habitée par ses mémoires. D'ailleurs, Laurent Montaron, le rôle de la mémoire et le regard sur les œuvres anciennes, c'est quelque chose qui est constant dans votre démarche ?
Disons que dans mon travail, j'essaie d'avoir toujours cette question de l'histoire. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des médias, à la théorie des médias. Donc, à lire... en fait, l'histoire me permet, paradoxalement, une lecture transversale, en fait, hein, qui me permet, au travers de l'histoire des outils, de rechercher, en fait, comment nos manières d'être ont changé, nos manières de penser ont changé.
Je vous vois souvent utiliser dans votre travail des instruments sonores déjà anciens. Le magnétophone est déjà quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, tel que vous l'avez utilisé, mais aussi des rouleaux de cire. Qu'est-ce que c'était que cette installation avec un rouleau de cire ? Ces voix anciennes qui venaient jusqu'à nous, comme venues d'outre-tombe.
Alors ça, c'était donc une pièce qui s'appelait Phénix, donc qui reprenait un phonographe de marque Phénix.
René de ses cendres, donc.
Exactement, mais sur lequel on pouvait enregistrer puis lire. Et le principe des rouleaux de cire, c'est aussi qu'on peut les effacer et enregistrer de nouveau dessus. Aussi, la cire garde la trace, la mémoire en fait, du son qui vient s'enfoncer petit à petit dans la
Et quel était le son que vous aviez utilisé ?
J'avais utilisé un enregistrement d'une personne qui parlait en langue.
Comme on parle en langue au moment de la Pentecôte, quand on est apôtre du Christ, par exemple.
Hein?
Et justement, quelles sont les voix qui parlent, Elisabeth Delahaye, dans ce cycle de tapisserie ? Est-ce que ce sont des poètes ? Est-ce que c'est le roman de la rose ? Est-ce que c'est le cœur d'amour épris ? Quelles sont les voix que l'on entend dans ce cycle de tapisserie ?
Alors, j'aurais tendance à dire, c'est un peu celle que vous avez envie d'entendre. Et c'est vrai que nous sommes donc aux environs de 1500. Traditionnellement, sauf si on est un élève de Le Goff, d'ailleurs c'est très intéressant et que l'on pense que le Moyen-Âge se termine à la Révolution française. En tout cas, on peut entendre l'écho de beaucoup de textes du Moyen-Âge dans ces tapisseries. Le roman de la rose, bien sûr, mais d'une façon, j'allais dire, extraordinairement épurée et plus concrète. Nous parlions tout à l'heure des cinq sens du sixième Jean Gerson, qui est celui qui... peu de temps avant, au début du XVe siècle, sans doute le plus clairement, dans un texte très moraliste d'ailleurs, exprimer cette pensée selon laquelle nous avons cinq sens et un sixième supérieur qui gouverne les autres. L'écho aussi de tous ces auteurs de bestiaires, eux aussi pour la plupart moralisants. Vous citiez Le cœur d'amour épris, et c'est extraordinairement intéressant parce que le roman du cœur d'amour épris est joue aussi, lui, de cette dialectique sur le désir et le cœur. Il y a deux chevaliers, le chevalier désir et le chevalier cœur. Et dans la tenture de la Dame à licorne et dans la sixième pièce, nous avons peut-être la représentation du cœur, avec toute la polysémie que nous évoquions, mais le mot qui est placé au-dessus, c'est le mot désir. Et donc, on retrouve ce jeu qui n'est pas purement ludique entre les deux mots.
Alors, cette phrase qui est écrite en haut de ce pavillon donne l'impression d'être précédée par une lettre et suivie par une lettre. Peut-être encore un mot là-dessus, puisque ça nous permettrait d'avoir les circonstances de la commande.
Alors là, nous quittons le domaine des certitudes, si par hasard nous avons été vraiment un moment dans le domaine des certitudes, mais nous sommes peut-être là davantage encore dans le monde de l'hypothèse. On peut en effet lire cette inscription de deux façons. On l'a le plus souvent jusqu'à maintenant lu comme « à mon seul désir » et puis un signe dont on ne tient pas compte. Mais déjà vers le milieu du XXe siècle, on avait évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'une lettre A une lettre qui pourrait être un I ou un J, et puis mon seul désir. Ça ne change pas grand-chose à l'interprétation de la scène elle-même. Mais ça peut effectivement donner une clé, ce qu'avait été l'interprétation de Karl Nordenfalk, on se retrouve là, de nouveau, dans le monde européen du Nord, qui était de dire, il se trouve que vers 1500, le chef de la famille leviste, enfin, à partir de 1500, le chef de la famille leviste se prénomme Antoine, et que nous savons qu'il a épousé, peu après cette date, une jeune femme qui se prénommait Jacqueline, le I et le J étant confondus au Moyen-Âge.
Oui, parce qu'il y a une légère courbure sur ce
voilà,
sur
qui peut être un signe d'abréviation. Et là, on retrouve ce que nous disions tout à l'heure de ce goût du Moyen-Âge, mais plus précisément encore de ces années de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, pour l'ambiguïté. C'est l'époque des rébus, des charades.
Souvent, les noms sont utilisés aussi par rapport à cela. Et justement... on a l'impression, ou il est suggéré dans le texte que vous avez écrit avec Michel Pastoureau, le nom des commanditaires, donc la famille Leviste, une famille lyonnaise, députée à Paris, je crois, enfin, donc assez puissante. Derrière ce nom-là, ce patronyme, il y a plusieurs autres noms comme ça qui apparaissent. Le vite, au sens masculin du terme, la vitesse, et peut-être même, pourrais-je suggérer, vois-tu, le vitu. Le guignefort du Puyrevelais, enfin, c'est temps de regarder bien, il y a du sens.
Oui, absolument, il y a du sens.
Voilà. Comment est-ce que vous attirerez l'attention, Laurent Montaron, quand vous voulez dire attention, là, regardez bien, il y a du sens. Parfois avec le son, non ?
Parfois avec le son ou l'absence du son.
Ça me rappelle une œuvre que vous avez faite qui est très étrange. On est dans la salle, on n'entend rien, on en part, et le son qui s'y trouvait avant qu'on y pénètre résonne en nous.
Voilà, donc c'est un peu le.
La clé du son, et non pas du
son. Voilà, la clé du son, la clé du sens, masquée pour mieux révéler, ou. Évider une partie que le regardeur va venir combler. Donc c'est un peu des sortes de stratégies que je peux utiliser pour accéder au sens.
En fait, c'est assez intéressant le mot stratégie, parce qu'on a l'impression que dans votre travail, dans le travail de beaucoup d'artistes qui, comme vous, mais c'est quand je dis beaucoup d'artistes, ils sont rares pour travailler à ce niveau de précision, de signification, il y a une stratégie pour amener le sens, rendre la chose présente. Et quand je dis rendre la chose présente, je pense à une œuvre de vous qui va peut-être nous ramener à ce dont nous parlons. C'est une image fixe qui est animée parce qu'il y a un ventilateur devant l'image, en fait. Et donc devant le projecteur. Et donc elle est comme rendue éternellement présente. Est-ce que c'est quelque chose comme cela ?
Oui, ça c'est apporter un peu de confusion qui va changer la manière dont on va voir les choses. C'est-à-dire ça, c'est cette œuvre dont on parle, c'est une diapositive qui est projetée devant l'objectif, donc un ventilateur qui vient animer l'image et qui nous fait penser dans un premier temps que c'est une projection de film. Donc il y a cette attente qui est créé pour le spectateur, qui attend que le mouvement soit déclenché. Du coup, c'est une sorte d'image fixe en mouvement qui serait une sorte d'éternel présent.
Vous savez, quand vous parlez de cela, je trouve ça impressionnant parce que la façon dont on regarde une image, au fond, la seule question, c'est en quoi nous est-elle présente ? Je crois que c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Et quand on voit qu'aujourd'hui, vous nous parlez de la Dame à la licorne, que George Sand en a parlé, que d'autres auteurs, Rilke en a parlé magnifiquement aussi, il y a tous ces artistes-là rendent présent la chose. Donc qu'est-ce qui, à votre avis, Elisabeth Delay, qu'est-ce qui a pu autant attirer l'attention, créer cette fascination sur des artistes, des créateurs modernes, on peut dire George Sand est un créateur moderne, si je veux dire Rilke, bien entendu. Qu'est-ce qui a pu créer cette fascination ?
Ça, c'est une grande question, et je serais intéressée d'avoir la réponse d'un artiste comme Laurent Montaron. Ce que je peux dire, c'est que probablement, à la fois ce mélange d'histoire, de mystère, vous disiez tout à l'heure aussi de silence, et il y a effectivement, Rilke d'ailleurs en a parlé magnifiquement, cette tranquillité, ce silence, au travers desquels, pourtant, tout cela nous parle beaucoup et parle de façon quasi intemporelle. Je pense que le fait que nous ayons ces représentations des sens, que le spectateur perçoive qu'il s'agit des cinq sens ou non, qu'y a-t-il de plus intemporel que les sens qui nous permettent de communiquer avec le monde qui nous entoure ? Et en même temps, comme ces œuvres ne sont pas bavardes, elles continuent de parler. Et elle nous laisse nous exprimer en face d'elle.
Vous continuez d'être intéressé par cette énigme, Laurent Montaron. Est-ce que c'est l'énigme elle-même, l'idée d'énigme qui vous intéresse, ou est-ce que c'est ce cycle d'images ?
crois que c'est un ensemble. C'est aussi la mécanique du mystère, en fait.
La mécanique du mystère. Merci Elisabeth Delahaye, merci Laurent Mantaron.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était les regardeurs. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un chef-d'œuvre du Moyen-Âge conservé au musée de Cluny à Paris, l'ensemble des 6 tapisseries que compose la Dame à la licorne tissée vers 1500. Je vous signale que vous pouvez voir en ce moment ces tapisseries restaurées et réaccrochées au 10 musée de Cluny à Paris. Durant l'émission, vous avez pu entendre un chef-d'œuvre d'Arvo Pärt commandé pour les célébrations de l'an 2000 à Avignon il y a donc 14 ans. Mon cœur dans les Highlands. Donc c'est un compositeur estonien. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur notre site franceculture.fr, en particulier les 2 livres Les Secrets de la Licorne parus à la RMN et La Dame à la Licorne qui est le catalogue de l'exposition. Lecture des textes Igor Menjiski et Estelle Clément Béalem. À la technique Claude Niort, merci Claude. Réalisation Annabelle Brouard. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Come, my babe, love me.